CFM Radio, bonsoir. Du Coq à l'Âne, Frédéric Moreau. Ce soir, nous partons pour l'année 1955. Une belle histoire, beaucoup de musique. A tout de suite. Marilyn, infâme objet dans la chaleur estivale, se rafraîchit sans pudeur à la bouche amène du métro new-yorkais et montre ses jambes et une culotte blanche, plus pure que les intentions après 7 ans de réflexion. La morale sur les écrans est encore sauve. L'ordre veille et les déviations sont tues ou cachées. Seul compte la bonne marche des affaires. Et quoi de plus facile que de s'appuyer sur l'ignorance, l'impatience et l'inconséquence pour arriver à ses fins. Les enfants soldats font des fantassins d'exception. Dans les années 50, la jeunesse occidentale est soignée après le massacre mondial à peine refroidi des années 30 et 40 et poussée à s'individualiser par la consommation à outrance. Elle devient la première ligne. Sans vergogne, elle se sert. La gloire se mesure peut-être au nombre de gens qui suivent le catafalque. Le souvenir durera tant que les gens présents n'auront pas suivi eux-mêmes le même chemin, couchés et silencieux à l'horizontale. Les fantômes continuent à hanter le monde tant qu'il reste quelqu'un de vivant pour penser à eux. Le 30 septembre 1955, James Dean se tue au volant de son Spider Porsche quelque part en Californie, sur la route qui le menait à une course automobile. Le hasard est souvent ironique. Il a 24 ans, il est au fait d'une notoriété nouvelle et éphémère qui, à l'instant de sa mort, se transforme en légende. L'annonce de son décès provoque une vague d'hystérie jamais connue au préalable et que l'on retrouvera un peu plus tard dans le comportement des fans de groupes comme les Beatles. Une nouvelle façon de vivre et de comprendre la vie? À ses funérailles, des milliers de gens se sont déplacés. C'est un demi-dieu, une idole, qu'on inhume. Il devient l'icône d'une nation naissante, celle des ados avides de tout et qui, en consommateurs, prennent le pouvoir dans un monde en mal de repère. Le combat pour la démocratie au sortir d'une guerre mondiale qui a ébranlé certitudes et morales, et en un temps où l'apocalypse est devenue une réalité à tout bout de champ, l'adolescence s'arroge des droits aussi nouveaux que sont alors le rock, la vitesse ou le sexe. En 1955, le rock'n'roll pousse ses premiers vagissements. C'est une musique venue du blues, une musique noire, inventée par des noirs.
Bam, bam.
Little Richard chantait Tutti Frutti. Issu d'une famille rurale de l'Indiana, enfant, James Dean s'installe avec ses parents en Californie, le pays du soleil de la jeunesse. À la mort de sa mère, alors qu'il n'a que 9 ans, il est confié à sa tante. Retour dans la Corn Belt, à la ferme, à la vie au milieu des bêtes, aux chevaux, au grand air. Sportif malgré sa petite taille et sa grande myopie, il prend goût aux arts, à la philosophie et aux courses de voiture sous l'aile protectrice du pasteur de son église. Il joue de la musique, fait du théâtre, conduit sa Triumph à toute allure et connaît peut-être dès cet âge, dont il sera plus tard le symbole le plus vivant, ses premières expériences bisexuelles. En 1949, il retourne auprès de son père et s'inscrit à l'UCLA, en droit, puis un an plus tard en art dramatique. Il tient quelques petits rôles dans des séries télévisées et ensuite, il fait le grand bond. Il part tenter sa chance à Broadway, à New York, où il se présente à l'Actor Studio, l'école dont la méthode influence alors la jeune génération montante du théâtre et du cinéma d'avant-garde. Déçu et choqué par l'enseignement de Strasberg, il préfère jouer sa chance crânement sur les planches et finit par décrocher un premier rôle d'importance dans la pièce « L'immoraliste » tirée du roman de Gide. Rôle scandaleux où il excelle, tant qu'il reçoit le prix du nouvel acteur de l'année. En 1955, Chuck Berry fait danser avec Maybelline. A Cadillac rolling on an open road, nothing out run my V8 Ford. A Cadillac doing about 95, moves bumper to bumper, rolling side to side. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the things you used to do. A Cadillac pulled up to 104, my Ford got hot and wouldn't do no more. The gun got cloud and started to rain, I tooted my horn for the passing lane. Can't you be true? You done started back doing the things you used to do. Il y a 15 ans, le découvreur de tant de nouveaux talents, Brando, Newman, Wallach, Steiger, est subjugué par James Dean et il l'engage pour son prochain film « À l'Est d'Éden ». C'est sans aucun doute le premier vrai rôle d'adolescent à part entière de l'histoire du cinéma, avec tout ce qu'un garçon de 17 ans, Cal, son personnage, peut avoir en lui de complexité, de terreur, de vilainie et de bassesse, d'incertitude et de mal-être face à un père autoritaire et figure emblématique de l'homme. Il ne tombe ni dans le pathos, ni dans la facilité mélancolique, mais campe un garçon impudent, exigeant, maladroit et sûr de son fait, le droit à l'amour qu'il revendique avec ténacité face aux adultes. Dans ses deux autres films qui font de lui une exception, un acteur universel n'ayant joué que 3 rôles, il incarne également 2 êtres orphelins de l'amour. Cependant, c'est certainement son premier et sous la direction de Kazan qu'il brille le plus au firmament du cinéma de son temps. Son regard presque aveugle, ses mimiques, son désespoir, sa façon de jouer de son corps et de ses postures, son phrasé, sa nonchalance, sa nervosité, font de lui un acteur hors pair, l'égal d'un Brando. Il incarne ses personnages au-delà du possible, toujours à la limite de chavirer dans la folie animale. Froid, hautain, violent, inconséquent, boudeur, incertain, angoissé, il balance sans cesse entre don total de soi et replie sur lui-même, de peur de trop se livrer, se révéler. En 55, Fats Domino, le créole français de la Nouvelle-Orléans, le toujours souriant et replet pianiste, le virtuose amoureux de la vie, l'inventeur réel du rock'n'roll, nous emmène en balade sur Blueberry Hill.
Found my thrill on Blueberry Hill, on Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill. It lingered until my dream came true. The wind in the willow played love's sweet melody, but all of the vows you made still, for you were my thrill on Blueberry Hill. The wind in the willow played love's sweet melody, but all of the vows you made
année-là, alors que le Soudan, la Tunisie et le Maroc se dirigent à grands pas vers leur indépendance, la France s'engage dans le conflit algérien. Des soldats sont envoyés sur place et les réservistes sont rappelés en masse. La DS, objet novateur au design tout en courbe, sort des usines Citroën. C'est un jouet de technologie innovante, une ligne en harmonie, une élégance presque surfaite, un esprit de fantaisie, une petite mort. James Dean tourne son dernier film, Géant, de Mike Nichols, aux côtés de Rock Hudson et de Liz Taylor. Un film où il n'apparaît qu'une vingtaine de minutes, et où par endroits, il ne trouve plus ses marques. Qu'en jouant son personnage vieillissant, il n'arrive pas à rentrer dans la peau d'un quinquagénaire grisonnant, tant son regard reste accroché à cette jeunesse qu'il incarne. Il n'est pas mauvais garçon comme Brando dans La Chevauchée Sauvage. Il est comme ceux qui, à cet âge, sont en recherche d'une vie tout en sachant que bientôt, celle-ci sera plus forte et impitoyable que tout leur espoir. Johnny Cash, le petit blanc, le rebelle, est à la prison de Folsom cette année-là.
I hear the train a-coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Thank you.
That bet there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Railroad train was mine. I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
Perdant sa mère jeune, James Dean apprit ce que la vie peut receler de pièges à l'espoir et à l'amour, et qu'elle est un long voyage en solitude. Égoïste et cruel, comme tous ceux qui sont avides de désir, il cache mal une immense vulnérabilité dont il est la victime consentante. Il joue dans la fureur de vivre, titre si mal traduit de Rebel Without a Cause de Nicolas Ray, le film type sur l'adolescence et ses errements, puis donc dans Géant, deux films pour lesquels il est nommé à titre posthume, pour les Oscars, avant de mourir lancé à plus de 170 km/h dans son nouveau jouet. Cet été-là, donc, en 55, un jeune garçon à peine adolescent, Emmett Till, descendu de Chicago en vacances chez ses grands-parents, dans le Mississippi, est sauvagement battu à mort par deux hommes blancs qui seront jugés et non condamnés par un jury composé en exclusivité de leurs semblables. Au vu des photos du corps du garçon, on peut mesurer la violence et l'horreur de cet acte commis en totale impunité. On ne peut jamais se réjouir du fait qu'une mort peut pour finir servir à quelque chose, parce que le bien n'a en rien besoin de se nourrir du tragique et de l'irrémédiable. Mais l'assassinat d'Emmett Till n'en fut pas moins l'un des principaux déclencheurs du mouvement des droits civiques qui permit aux Noirs américains d'accéder à ce qui leur est alors inaccessible. À l'automne 55, Miles Davis et son quintet enregistrent « À le chat », un morceau de Charlie Parker. La mort vide les lettres de toute sa subjectivité. Le 30 septembre 1955, James Dean devient une icône, un objet de vénération pour des millions de fans éplorés de par le vaste monde. Parler de lui n'est plus qu'une question d'adoration, peu importe même qu'il fut l'acteur incroyable révélé par 3 films tournés en 1 an et demi. Il n'est plus lui, il est une image, une incarnation en 2 dimensions. La 3e n'est plus. Incarnation d'un mythe éternel, la jeunesse. L'insouciance, la révolte, la beauté qui l'accompagne deviennent les avatars d'un jeune homme qui pourtant était bien plus que cela. Un être complexe, en recherche de soi, en puissance, en violence exacerbée, ou rentrée, suivant les jours, et un homme en quête d'un absolu, l'amour. Il est transformé par la force et la masse de tous ceux qui ont besoin de repères et d'images de papier. Papier qui jaunit au mur, fermé des chambres du milieu d'adolescents, en mal de vivre. Un pis-aller. Et parler de lui comme d'un symbole est en quelque sorte l'enterrer une seconde fois. Loin, bien loin de ce qu'il fut le temps d'un court instant. Tout sauf une idole. Brando, avec lequel on le compara souvent, va sombrer de son vivant dans un narcissisme mortifère pour devenir un dieu vivant, un monstre tout absorbé par son culte. Dean, lui, n'est pas le jeune garçon en jeans, t-shirt, knickers et blousons qu'il est devenu dans l'imagerie populaire et commerciale. Il est un homme vivant en butte à ses interrogations et ses difficultés. Il est un acteur qui tente d'approcher de plus près la vérité. Il est un corps qui s'exprime, parle, hurle, ploie, gémit, grince et mord. James Dean est un poète du corps. Il en joue comme un musicien tout en nuances, en couleurs et en intensité. La même année, donc, en 55, Chet Baker, le trompettiste ténébreux, le beau visage, à la mélancolie en accroche-cœur, enregistre You Don't Know What Love Is. Je vous laisse avec Chet Baker. À tout de suite.
You don't know what love is until you've learned the meaning of the blues, until you've loved a love you've had to lose. You don't know you don't know how lips hurt until you've kissed and had to pay the cost, until you've flipped your heart and you have lost. You don't know do you know how a lost heart fears the thought of reminiscing, and how lips that taste of tears lose their taste for kissing? You don't know how hearts burn for love that cannot live yet never dies, until you faced each dawn with sleepless eyes. You don't know thank you. You don't know how hearts burn for love that cannot live yet never dies. Until you've faced each dawn with sleepless eyes, how could you know what love is? What love is? What love is?
La vie si courte de Dean devient un roman, un objet que l'on s'arrache comme autrefois les reliques d'un saint. Il est transformé en ange d'une époque dont les ailes ont brûlé à la chaleur de la flamme du succès. Un héros tombé au champ d'honneur de la jeunesse, une victime du sacrifice au dieu du siècle qui chaque jour prend son comptant de chair vivante sur les routes du monde modernisé. Une étoile foudroyée alors même que les stars d'Hollywood, ternies par le macartisme et l'avènement d'un âge nouveau, celui de l'adolescence, ne sont plus adulés de leur vivant comme avant la guerre. James Dean est la première vedette à accéder au Panthéon en mourant alors même que sa carrière débute, et la première idole de la jeunesse. Il est récupéré au-delà même de son image commercialisée par tous et toutes. Des Lolita en mal de caresse, aux ados bien coiffés, des blousons noirs en mal des 50s, en passant par les homos, les cinéphiles, les amoureux d'une époque, les intellos cultivés et ceux qui ne le sont pas, et les snobs de droite ou de gauche. 1955, c'est aussi ça. Boris Vian, je suis snob.
Je suis snob, c'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de turbin, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegarde, c'est toujours moi qu'on garde. Je suis snob, foutrement snob. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon. Chemise d'organdi, chaussures de zébu, cravate d'Italie et méchant complet vermoulu. Un rubis au doigt, de pied, moi celui-là, les ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir. Je vais au cinéma, voir des films suédois et j'entre au bistrot pour boire du whisky à gogo. J'ai pas mal au foie, personne ne fait plus ça, j'ai un nul soir. C'est moins banal et plus cher, je suis snob. C'est Bat, je m'appelle Patrick, mais on dit Bob. Je fais du cheval tous les matins, car j'adore l'odeur du crottin. Je ne fréquente que des baronnes, oh non comme des trombones. Je suis snob, excessivement snob. Et quand je parle d'amour, c'est tout nu dans la cour. On se réunit avec les amis tous les vendredis pour faire des snobismes partout. Il y a du coca, on déteste ça, et du camembert qu'on mange à la petite cuillère. Mon appartement est vraiment charmant, je me chauffe au diamant, on ne peut rien rêver de plus fumant. J'avais la télé, mais ça m'ennuyait, je l'ai retournée. De l'autre côté c'est passionnant, je suis snob. Ah ah, je suis ravagé par ce microbe. J'ai des accidents en Jaguar, je passe le mois d'août au Plumard. C'est dans les petits détails comme ça que l'on est snob ou pas. Je suis snob, encore plus snob que tout à l'heure. Et quand je serai mort, je veux un suaire de chez Dior.
Le pacte de Varsovie, traité d'assistance entre URSS et République populaire d'Europe centrale, est signé au printemps et constitue un glacis défensif pour les soviétiques face à l'Europe occidentale du pacte de l'OTAN. Pendant ce temps-là, la RFA accède à la souveraineté, et la RDA n'est plus occupée par l'Union soviétique. Mais n'en demeure pas moins, un de ses satellites et l'Autriche voient les quatre grands la quitter et accéder à son indépendance en échange de sa neutralité dans le face-à-face entre blocs. À Bandung, en Indonésie, 29 pays du tiers-monde se réunissent. C'est le début du mouvement des non-alignés, dont l'Inde de Nehru est l'un des leaders, ainsi que l'Égypte de Nasser, qui devient, lui, le porte-parole du monde et du nationalisme arabe. Ces 29 délégations d'Asie et d'Afrique s'entendent pour dénoncer toute forme de colonialisme et d'impérialisme, pour réprouver la politique des blocs et l'escalade nucléaire, même s'ils sont présents des États communistes comme la Chine et le Vietnam, ou d'autres très proches des États-Unis comme l'Iran ou le Japon. En 1955, Thelonious Monk joue It Don't Mean a Thing. avec justesse se demander ce que Dean serait devenu s'il avait eu le temps de vieillir. Aurait-il su échapper à son âge ou aurait-il sombré comme beaucoup d'autres jeunes célébrités oubliées de leur vivant? Mais peu importe, il est toujours à l'est d'Éden, un rebelle en mal de vie, un poète en quête d'amour, parti au volant de son joujou d'acier, une voiture de course, un objet de son temps, magnifique et fragile. Il s'en va d'un coup, sans souffrir plus et en silence. Le monde est devenu un grand parc d'attractions, où tous les enfants de la Terre sont invités à s'amuser et consommer du loisir, quitte à s'envoler au ciel pour ne jamais revenir. Cette année-là, le premier Disneyland ouvre ses portes. L'entreprise est à la portée des bourses des petits princes. Cette progéniture qui bientôt s'inscrira dans les clubs de gestion, gavée d'édulcorants puisque le premier McDonald's est créé en 55. Et d'images à sa portée sur écran télévisé, sans artefact autre que l'objectif visé, avec frisson et excitation, à la clé. Premier flirt, premier baiser, première fille déshabillée à l'écran et en réalité. Créature monstrueuse de série B, en avatar d'un communiste chassé jusque dans les arrières-cours les plus secrètes. L'ordre nouveau veille et l'adolescent en est le fantassin consentant. L'hypocrisie et le non-dit sont institués comme fondement de la démocratie consumériste et le sexe même devient acceptable pour autant qu'il se consomme dans le champ ouvert et éclairé du commerce rentable, imagé et décliné. Dans les années 50, le jazz, ce n'est pas que la Nouvelle-Orléans, New York, Saint-Louis ou Kansas City. C'est aussi la Californie, ce pays du soleil et de la jeunesse, la côte ouest et le jazz West Coast. En 55, c'est Stan Getz qui joue Summertime. Thank you. Tanguy rejoint son monde de plage habitée. De Staël s'envole de sa terrasse vers l'infini des couleurs et Fernand Léger range ses pinceaux. Honegger se tait pour toujours et Einstein avale sa langue et s'éteint après avoir lutté pour la paix. Le 12 mars 1955, un oiseau de paradis, un éléphant jouant sur un fil, l'homme au riff démoniaque, le saxo fou qui joue si vite que personne ne semble pouvoir le suivre, Charlie Parker, l'immense musicien qui chamboula le jazz et son tempo, l'homme aux mains d'or, l'ornithologue aux phrases bouleversants, le bebop incarné, le génie incontesté s'en va à 34 ans, usé par l'héroïne et les tourments. C'est un artiste hors norme, un ogre de son et de joie, un allumeur d'étoiles, un jongleur de notes, une vibration qui s'éteint. Il reste ses sessions avec les plus talentueux de ses contemporains et ce concert de 1953 au Massey Hall de Toronto avec quatre autres extra-lucides, Powell, Gillespie, Roach et Mingus. Une soirée de dingue enregistrée à la sauvette, cinq magiciens très haut perché et un ciel de couleurs rutilante. Je vous laisse pour une nuit à Tunis avec Monsieur Charlie Parker. Bonsoir.
A night in Tunisia. Thank you.